Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Je suis parti parce que je voulais faire la guerre, je voulais tuer des Boches. Si c'était à refaire, je recommencerais.
Il n'avait pas encore 20 ans lorsqu'il a répondu à l'appel du général de Gaulle. Daniel Cordier est décédé aujourd'hui, résistant, secrétaire de Jean Moulin. Il était l'avant-dernier compagnon de la Libération. Nous lui rendrons hommage dès le début de ce journal. Emmanuel Macron s'exprimera mardi soir sur les modalités du confinement. Il pourrait annoncer une réouverture anticipée des commerces. Ce sera a priori le 28 novembre. Ça s'accélère du côté des vaccins contre le Covid. Les laboratoires déposent leurs demandes d'autorisation et les pays commencent à mettre en place leur stratégie. Stratégie de vaccination. L'Allemagne est d'ores et déjà prête. En France, en revanche, ça traîne. Dans ce journal également, le face-à-face entre Jonathan Daval et la mère d'Alexia. Et le foot, le PSG joue en ce moment dans deux stades différents. Les hommes à Monaco, les femmes au Parc des Princes, que l'on pourrait d'ailleurs renommer ce soir Parc des Princesses. Le temps de demain, très ensoleillé, mais frais. Les températures vont continuer à baisser, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse de 0,39% à 5 495 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes, c'est idiot de reporter le Black Friday. C'est le message ce soir de l'invité d'Emmanuel Duteil, Éric Merz, président de la Fédération Nationale de l'Habillement.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quand la France était en péril, lui et ses compagnons prirent tous les risques pour que la France reste la France. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a rendu hommage cet après-midi à Daniel Cordier, grand résistant, ancien secrétaire de Jean Moulin. Il s'est éteint à l'âge de 100 ans. Une vie longue et intense. Lord d'Autriche, vous l'aviez rencontré, c'était un personnage exceptionnel.
Oui, et ce qui était frappant chez lui, c'est sa carrure imposante et son regard lumineux, le regard, quelque chose qui ne change pas chez un homme malgré l'âge, malgré la vieillesse. Il avait le souci du détail et ce qu'il racontait semblait s'être déroulé hier. Lorsque Daniel Cordier entend le discours de Pétain le 17 juin 40, il s'effondre en larmes. Comment la France a-t-elle pu perdre la guerre? Il faut la gagner, pense-t-il. Daniel Cordier est l'un des premiers à rallier la France libre du général de Gaulle à Londres en juin 40. Cet épisode, il me l'avait raconté il y a 2 ans, en 2018.
Je suis parti parce que je voulais faire la guerre, je voulais tuer des Boches. Les troupes de la France libre, nous étions des enfants. Nous avions 14-15 ans. Si c'était à refaire, je recommencerais.
En 1942, Daniel Cordier est parachuté à Lyon. On lui demande d'abord de remettre des documents au représentant personnel du général de Gaulle en France. Il arrive dans un vieil immeuble, il sonne à la porte. Au fond du salon, il aperçoit un homme, c'est Jean Moulin. Il allait devenir son secrétaire pendant près d'un an avant que Jean Moulin soit arrêté.
Il était très rayonnant. Il m'a serré la main et il m'a dit « J'espère que vous avez fait bon voyage ». La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir connu l'homme que je servais.
Et oui, parce qu'il ne savait pas, bien sûr, à l'époque que son vrai nom était Jean Moulin. Cette guerre, cette seconde guerre mondiale, avait fait de Daniel Cordier un Européen convaincu.
Merci, Lord d'Autriche. Un hommage national sera rendu à Daniel Cordier, annonce Emmanuel Macron. Sur les 1038 compagnons de la Libération distingués par le général de Gaulle, il n'en reste plus qu'un seul, encore vivant, Hubert Germain, lui aussi centenaire.
Europe 1. Le 22-22-30.
La grande distribution et le commerce en ligne ont officiellement accepté aujourd'hui de décaler d'une semaine le Black Friday. L'opération promotionnelle débutera donc le 4 décembre sous réserve d'une réouverture des petits commerces d'ici là. Or, aucune date n'a encore été communiquée. Ça se fera autour du 1er décembre, a déclaré ce matin Jean Castex, manière de ne pas griller la priorité à Emmanuel Macron qui s'exprimera mardi soir. À la fois sur la situation sanitaire, mais aussi sur les possibles allègements ou aménagements du confinement. Carole Ferry, vous suivez ce dossier pour Europe 1. Est-ce qu'une date émerge pour la réouverture des commerces?
Alors la date qui tient la corde, clairement, c'est le samedi 28 novembre. L'idée, c'est vraiment que les commerçants aient un week-end de plus pour accueillir des clients avant Noël. Ça pourrait être dès le vendredi 27, mais cette date correspondait surtout au Black Friday. Maintenant que l'événement est reporté au 4 décembre, elle a moins de sens. Mais bien sûr, la priorité, ça reste la situation sanitaire. Donc, on peut raisonnablement dire qu'ils rouvriront le samedi 28, sauf mauvaise surprise sur le plan de l'épidémie. D'ailleurs, si Emmanuel Macron s'exprime dès mardi soir, eh bien c'est sans doute en partie pour permettre aux magasins de se préparer à cette réouverture.
Réouverture dont il reste à finaliser les modalités, Carole, le protocole sanitaire.
Là, c'est en partie tranché. Il n'y aura plus 4 mètres carrés par client, mais le double, 8 mètres carrés. Les commerçants espéraient une dérogation pour les petites surfaces. Elle a été refusée. La règle sera donc la même pour tout le monde. Il y a vraiment une volonté de montrer que ça rouvre, mais dans des conditions sanitaires très strictes. Il reste une autre question à régler, celle des horaires d'ouverture. Plusieurs fédérations demandent à pouvoir ouvrir tous les dimanches de décembre et de janvier, et jusqu'à 22h. Le gouvernement y est plutôt favorable, mais les discussions ont été repoussées à plus tard. On en saura sans doute plus la semaine prochaine.
Carole Ferry, du service économie d'Europe 1. Alors que le pic de la deuxième vague a sans doute été franchi, selon Santé publique France, les choses s'accélèrent du côté des vaccins contre le Covid. Pfizer et BioNTech ont officiellement déposé aujourd'hui une demande d'autorisation aux États-Unis. L'Europe va suivre rapidement. Les premières vaccinations pourraient même avoir lieu dès la mi-décembre, selon la présidente de la Commission européenne. Il est donc urgent de mettre en place un plan de vaccination, de s'organiser. On verra dans un instant que la France est un peu à la traîne. En revanche, nos voisins allemands, eux, sont déjà prêts. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Les centres de vaccination sont même déjà installés.
Oui, ici à Berlin, il y en a 6. Alors au parc des expositions, au vélodrome, dans une salle de concert par exemple, avec à chaque fois 15 cabines de vaccination. Les seringues et les aiguilles ont été commandées, certaines déjà livrées d'ailleurs. Tout est prêt pour pratiquer une injection toutes les 2 minutes à partir de la mi-décembre, si le vaccin est prêt. C'est ça l'objectif, un vaccin toutes les 2 minutes, car Berlin a maintenant un taux d'incidence qui dépasse celui de Paris. Rien que dans la capitale, il y a 400 000 personnes à risque, et en Allemagne en général, c'est 40% de la population, parce qu'il y a beaucoup de seniors ici. Et comme les Allemands sont globalement plutôt mauvais quand il s'agit d'improviser, eh bien ils ont préféré anticiper et ils ont arrêté leur stratégie de vaccination dès le début de ce mois de novembre. L'Académie des sciences, le Comité national d'éthique et une commission parlementaire ont planché ensemble sur la question. Tout est réglé au millimètre pour écarter toute polémique. Et d'ailleurs, 93% des Allemands disent qu'ils sont d'accord avec ce plan de vaccination qui ciblera jusqu'au printemps prochain uniquement les personnes à risque. Les soignants, les forces de l'ordre et les enseignants. Le seul détail qui n'est pas public pour l'instant, ce sont les lieux de stockage du vaccin, 60 hangars répartis sur tout le territoire allemand, qui, une fois connus, seront protégés par l'armée.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Et la France, alors, est-ce qu'on est prêt, nous aussi, à vacciner 67 millions d'habitants? Officiellement, la campagne débuterait début 2021, mais on n'en connaît ni les contours, ni les modalités. D'où la colère de Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins généralistes de France, regrette qu'encore une fois, notre pays soit à la traîne.
Depuis le début de cette pandémie, la France ne s'est pas illustrée par une préparation à toute épreuve. On a manqué de masques en mars, on a manqué de tests au mois de septembre. On est en train de manquer de vaccins contre la grippe au mois de novembre. Donc, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. J'espère tout simplement qu'on ne s'appuiera pas sur l'administration comme on l'a fait en 2009 avec Roselyne Bachelot. Rappelons qu'en 2008, les médecins généralistes vaccinaient 12 millions de personnes et que quand on a organisé les vaccinodromes de 2009, on a vacciné simplement 6 millions de personnes. Moitié moins. Il faut agir et vite, définir une stratégie, faire en sorte que les pharmaciens soient approvisionnés, que les médecins généralistes soient également approvisionnés et que les infirmières libérales puissent être en capacité de vacciner.
Le président de la Fédération des médecins généralistes avec Victor Dolande pour Europe 1. Didier Raoult porte plainte pour diffamation contre l'un de ses homologues du CHU de Grenoble. Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses, avait accusé le directeur de l'IHU de Marseille de proférer des fadaises et d'avoir bidonné son étude sur l'hydroxychloroquine. Valéry Giscard d'Estaing est sorti de l'hôpital où il avait été admis dimanche soir pour une insuffisance cardiaque. L'ancien président de la République, 94 ans, va mieux. Il a désormais une bonne voix, précise son cabinet qui a pu lui parler aujourd'hui au téléphone.
Europe 1. Julien Pierce.
On ne tue pas pour un rapport sexuel, on ne tue pas pour deux insultes. Pour moi, il y a une autre raison, confiait ce matin au micro de Mathieu Béliard, la mère d'Alexia Daval. Cette autre raison, Isabelle Fouillot a tenté de l'obtenir aujourd'hui aux Assises de la Haute-Saône. Pendant de longues minutes, elle a échangé avec son gendre Jonathan, celui qu'elle considérait comme son fils et qui a tué sa fille, Arthur Emmaché.
Et cet échange qu'elle attendait depuis des mois n'a pas satisfait la mère d'Alexia, qui a dit ceci en sortant du palais.
Faut que j'arrête de me torturer l'esprit, j'aurai pas la vérité. Maintenant, qui passe le plus longtemps en prison, c'est tout ce que je demande.
S'il te plaît, lâche-toi, Jonathan. Ça avait commencé comme ça. S'il te plaît, tu sais que c'est la dernière fois que je te vois. J'ai besoin de savoir pourquoi. Et la réponse, toujours la même. Une dispute, Isabelle, faut le croire. La dispute de trop, les mots de trop, les reproches de trop. Me dis pas que tu l'as tué pour quelques mots. C'était quoi la finalité de la tuer? Qu'elle se taise. Là, elle s'est tue. T'es heureux maintenant qu'elle s'est tue? Elle s'est tue à jamais. Moi non plus, je n'entendrai plus. J'entendrai plus son rire, j'entendrai plus sa voix. Quel gâchis. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? On n'avance pas, Jonathan. Je suis désolé pour tout. C'est tout? C'est si peu. J'attends mieux, Jonathan, s'il te plaît. Je peux rien dire de plus. Ma foi, tant pis, je te souhaite un bon séjour en prison. Adieu. Un peu plus tard, interrogé sur ce qu'il attend du verdict, sur la peine, l'accusé dit « Peu importe, je m'en fiche, j'ai plus d'avenir. »
Arthur Mbaché qui suit pour nous ce procès de Jonathan Daval. Le verdict est attendu demain soir. On a appris aujourd'hui l'hospitalisation de Michel Fourniret après un malaise. Le tueur en série âgé de 78 ans a été retrouvé ce matin sur le sol de sa cellule de la prison de Fresnes. Condamné à la perpétuité pour le meurtre de 7 jeunes femmes, Fourniret a avoué en mars dernier sa responsabilité dans l'affaire Estelle Mouzin. L'ogre des Ardennes, comme il est surnommé, a récemment donné des indications prometteuses sur l'endroit où il aurait enterré le corps de la jeune fille. De nouvelles fouilles doivent avoir lieu début décembre. Les députés ont adopté ce soir la mesure la plus controversée de la proposition de loi Sécurité globale, le fameux article 24 qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre. Le texte avait toutefois été amendé au préalable par le gouvernement pour garantir le droit d'informer. On termine avec le foot et ces deux matchs en cours ce soir. L'AS Monaco affronte le PSG, 11e journée de Ligue 1, ça c'est du côté des hommes. Mais avant, honneur aux dames, les joueuses du Paris Saint-Germain jouent en ce moment pour la première fois en championnat au Parc des Princes pour un choc face aux Lyonnaises, Julien Froment.
Exactement, la 56e minute de jeu et pour le moment, c'est la surprise au Parc des Princes puisque ce sont les Parisiennes qui mènent 1-0. Face aux Lyonnaises, un but signé Marie-Antoinette Katoto à la 11e minute de jeu, très bien lancé en profondeur. Elle s'est jouée de Sarah Bouhadi, une frappe en pivot en tombant et la défenseuse de Lyon, Buchanan, qui n'a pas pu revenir suffisamment à temps pour empêcher eh bien, la Parisienne d'inscrire ce but. On peut le dire hein, clairement, dans la première période, les Parisiennes ont été beaucoup plus tranchantes, beaucoup plus intéressantes dans le jeu que des Lyonnaise, ma foi, assez décevante. À noter d'ailleurs que du côté de Lyon, la sortie sur blessure de Jenny Le Sommer. Et c'est pas une bonne nouvelle ça pour l'équipe de France féminine, qui, on le rappelle, hein, est un peu en pleine tempête médiatique. Et cette équipe de France doit jouer le 27 novembre prochain sa qualification pour l'Euro 2022 face à l'équipe d'Autriche. Donc voilà, toujours 1-0 pour les Parisiennes face à Lyon après 57 minutes de jeu.
Merci Julien Froment en direct du Parc des Princes. Direction maintenant le stade Louis II, où l'on vous retrouve, Frédéric Hélion, pour cet autre choc masculin, cette fois entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain.
Et on joue depuis 55 minutes, Julien, au stade Louis II. 2-1 pour le Paris Saint-Germain qui est devant grâce à Kylian Mbappé, l'international français qui a inscrit un doublé en première période. Tout d'abord en prenant de vitesse le défenseur monégasque Disasi à la 25e pour placer une belle frappe du pied droit sous la barre transversale de Vito Manone, le gardien monégasque. Et puis en transformant un pénalty suite à une faute sur Rafinha dans la surface de réparation à la 37e minute. Le PSG qui aurait pu même mener 4-0 puisque les Parisiens ont inscrit deux buts refusés suite à la consultation de la fameuse VAR, l'assistance vidéo. C'était un triplé d'Mbappé à la 37e, puis un but de Moïse Kean à la 44e. Et puis finalement, les Monégasques ont cru au retour des vestiaires et qui ont réduit l'écart une nouvelle fois suite à une intervention de l'assistance vidéo. Mais cette fois-ci, le but a été bien validé pour Kevin Volland, l'attaquant allemand. Donc 2-1 pour le Paris Saint-Germain ici à Monaco, mais il se passe beaucoup de choses.
Merci beaucoup Frédéric Hélion au stade Louis II pour Europe 1. On vous retrouve, messieurs, dans quelques minutes à la fin de cette édition. Un peu plus tôt dans la soirée, le Stade Rennais s'est incliné 1-0 à domicile face au Girondins de Bordeaux, match qui compte pour la 11e journée de Ligue 1. La météo, Anissa Haddadi, le temps de demain sera calme.
Oui, le week-end commence calmement, effectivement, Julien. Demain, avec toujours en début de journée, comme depuis plusieurs semaines maintenant, pas mal de brumes et de brouillards. Il n'y a finalement qu'en Corse, dans le sud et sur les Alpes, que le ciel est dégagé et déjà bien ensoleillé. Sur les Caps Corses, le vent souffle, le Mistral reste sensible dans le sud et se calmera dans l'après-midi. Au meilleur de la journée, il va faire très beau sur une grande partie du pays, les trois quarts de la France hein, quasiment. Au nord de la Seine, le ciel est un petit peu plus couvert, avec sur la Normandie des bruines. Du vent d'ouest sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Et puis les températures qui baissent encore demain. Il va faire vraiment frais. Et on va devoir gratter les pare-brises puisque nous aurons moins 4 degrés à Rodez, moins 3 à Aurillac, moins 2 à Strasbourg, moins 1 à Clermont-Ferrand, 2 degrés à Biarritz, 5 à Paris, 10 à Brest et 11 à Cherbourg. Et au meilleur de la journée, c'est frais encore, hein, 7 à 10 degrés dans le nord-est, 10 à 14 sur l'ensemble de la France et jusqu'à 17 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. C'est idiot de reporter le Black Friday, c'est le message de ce soir de l'invité d'Emmanuel Duteil, Eric Mertz, président de la Fédération Nationale de l'Habillement. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h et bientôt 17 minutes sur Europe 1. Très belle soirée à tous. Et c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street a encore tergiversé ce soir face à la résurgence du Covid-19 et aux inquiétudes pour l'économie.
Oui, c'est finalement du rouge. Le Dow Jones perd 0,75%, 29 263 points. Le Nasdaq, lui, recule de 0,42% à 11 854 points. La pandémie de coronavirus progresse aux États-Unis. Et puis, autre mauvaise nouvelle, l'administration Trump menace de refermer l'un des robinets à liquidité ouverts depuis le début de la crise sanitaire pour soutenir l'économie américaine. Alors, l'actualité tourne encore beaucoup autour du vaccin anti-Covid ce soir. Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont déposé une demande d'autorisation d'urgence pour le leur aux États-Unis. Étape importante. Pfizer en profite pour gagner 1,4%, BioNTech plus 9,6%. Oui. Ça monte aussi pour les autres laboratoires qui planchent sur un vaccin. Moderna plus 5,2%, AstraZeneca plus 2%. Et puis côté devise, l'euro pointe à 1,1852$, il perd 0,2%.
Fin de semaine assez tranquille pour le CAC 40 qui est de retour à son plus haut niveau depuis février.
Oui, l'indice a repris 0,39%, 5495 points. Et avec une seule séance de repli cette semaine, eh bien, la progression dépasse les 2% sur 5 jours à Paris. Côté valeur, ça monte pour le luxe. LVMH, l'entreprise qui pèse le plus lourd sur le CAC, a battu un nouveau record en bourse aujourd'hui. L'action gagne 0,8%. Un pic historique aussi pour Hermès qui monte de 1%.
Et puis au programme, un record également pour la FDJ, la Française des Jeux.
Oui, un record alors que le gestionnaire du loto et autres jeux de Paris fête le premier anniversaire de son introduction en bourse. Un succès puisqu'en un an, le titre Française des Jeux a bondi de plus de 80%. Ailleurs en Europe, la semaine se termine en hausse, un gain de 0,4% pour Francfort et de 0,3% pour Londres. Madrid s'adjuge 0,6%, Amsterdam plus 0,9% et le CAC 40 gagne 0,4% à 4595 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à lundi. 22h19 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Eric Mertz.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de la Fédération Nationale de l'Habillement et vous représentez principalement les petits magasins indépendants de l'habillement. On a appris cet après-midi que le président de la République allait s'exprimer la semaine prochaine. C'est maintenant confirmé. Ce sera mardi. Logiquement, c'est à cette date que l'on saura si les commerces peuvent rouvrir ou non le week-end du 28 novembre. C'est un soulagement si vous avez 4 week-ends pour préparer Noël.
Ah oui, c'est un soulagement. Les commerçants attendaient ça. De toute façon, on ne peut pas continuer à rester fermé. Que ce soit des commerçants indépendants, multimarques ou franchisés, c'était insoutenable. Vous vous rendez compte qu'on a été livré de nos stocks dans le courant du mois de septembre et on nous annonce une fermeture administrative et c'est une catastrophe. Donc on est ravis de pouvoir réouvrir. Se pose la question, pourquoi le 28 et pourquoi pas le 27?
Alors 27-28, c'est pas arrêté encore et on ne sait même pas si ce sera possible, mais a priori, c'est ce que laissent entendre les pouvoirs publics. Et pourquoi ça semble être le cas? Parce que déjà, l'épidémie semble faiblir et puis surtout, parce qu'il y a eu un accord de la part des distributeurs, mais également d'Amazon, le géant du commerce électronique. Tous ont accepté de reporter la date du Black Friday au 4 décembre. C'est une bonne nouvelle, ça aussi pour vous, ou vous auriez préféré rouvrir avec déjà une journée de solde à la date prévue?
Alors écoutez, si je peux me permettre, je trouve déjà très étrange qu'on conditionne la date de réouverture à l'événement du Black Friday. Initialement, le Black Friday, c'est le 27. C'est un événement international et je rappelle que tous les pays européens pratiqueront le Black Friday le 27. Donc ça, c'est ma première interrogation. Le 28, bah, évidemment, on est le lendemain, donc le Black Friday ne se justifie plus et on le reporte avec la gentille complaisance d'Amazon et d'un certain nombre d'opérateurs spécialisés, de la grande distribution d'ailleurs, le 4 décembre. Je suis quand même assez étonné. On va mettre un événement purement promotionnel en plein pendant les achats des fêtes de Noël, dont on sait que c'est le mois le plus important pour nous, ça représente jusqu'à 20% de notre chiffre d'affaires, à taux de marge plein. Donc on peut craindre qu'en ayant agi de la sorte, eh bien on ait une surenchère promotionnelle, comme on l'a connu le 11 mai, et pendant tout le mois de décembre. Si la manœuvre du gouvernement ou des grandes enseignes est de nous faire céder nos stocks à vil prix, effectivement, on va être dans une situation d'autant plus compliquée que, on n'aura pas d'autre solution que d'être en cessation de paiement très rapidement et d'engager des plans sociaux.
Donc pour vous, là, vous, ce que vous demandez, c'est laissez-nous rouvrir le 27 ou le 28 et surtout laissez le Black Friday le 27.
Laissez-nous rouvrir le 27, oui. Que le 27, il y ait eu l'événement du Black Friday, eh bien écoutez, il n'y aurait pas plus de distorsion de concurrence entre le commerce physique et le commerce numérique. Et au moins, ça aurait le mérite d'être harmonieux sur le plan européen.
Et on l'entend de vous laisser travailler ensuite derrière trois week-ends au mois de décembre, ce qui permet de vendre un petit peu derrière à prix fort. C'est ça que vous espérez quand même, on peut le dire honnêtement.
Exactement. Et j'ajouterais aussi que le risque de voir le Black Friday positionné le 4 décembre, c'est que nous travaillions très peu du 28 au 3 décembre avec des taux de fréquentation extrêmement bas, puisque les gens étant avertis longtemps à l'avance, iront chercher la bonne affaire le 4 décembre, et d'avoir une affluence, comme on aurait pu l'avoir le 27 dans nos magasins, avec des règles sanitaires qu'il faudra renforcer, certes, mais une problématique qui sera toujours posée.
Justement, donc, le protocole sanitaire va être renforcé. Aujourd'hui, on est pour un client pour 4 mètres carrés dans un magasin comme les vôtres. Je rappelle que vous représentez les petites boutiques indépendantes d'habillement. Ça va passer à 8. Vous ne serez pas obligé de faire des rendez-vous, mais vous serez vraiment obligé de renforcer encore la distanciation au sein de vos magasins. Vous êtes prêt à cela ?
Alors nous, on y est prêt et on le fait depuis le 11 mai. On est la seule fédération dans le secteur du textile et de l'habillement à avoir édité un guide professionnel et avec une jauge à une personne pour 8 mètres carrés. Donc si j'ai un message à faire passer auprès de vos auditeurs, c'est ne prenez pas de risques inutiles. Si vous voulez acheter en toute sécurité, allez chez votre commerçant indépendant de proximité. Il applique déjà ce protocole sanitaire depuis le 11 mai.
On entend que chez vous, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que vous avez une estimation de ces petites boutiques d'habillement qu'on connaît tous dans nos centres-villes qui ne rouvriront jamais ?
Ah, écoutez, c'est très difficile à dire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place, grâce au gouvernement, des prêts garantis d'État. Que ces prêts garantis d'État, une entreprise sur deux les a souscrits. Ça représentait en moyenne 13% du chiffre d'affaires, qu'aujourd'hui on est à 3 mois de fermeture administrative et qu'on est bien au-delà de ces 13% de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que forcément, la trésorerie des entreprises est au plus bas, ces PGE ont été consommés ou vont l'être très rapidement et dès lors vont se poser des problèmes de trésorerie très 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 rapidement. Et si on ne trouve pas avec le gouvernement une solution sur les stocks, une indemnité de compensation du préjudice subi, et qu'on décale pas la date des soldes, de préférence plutôt dans le courant du mois de février, on aura des très 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 gros soucis, puisqu'on ne fera pas de marge. On va faire peu de marge à Noël. Derrière, vous savez que les soldes, on ne fait pas de marge, et je ne vois pas comment on sera en mesure de refinancer notre besoin en fonds de roulement pour faire face aux collections de printemps et d'été 2021.
Ce que cette crise a aussi montré, c'est quand même une énorme agilité de la part de toutes les petites boutiques que vous représenté grâce à ce qu'on appelle maintenant le click and collect. J'achète sur internet mais je viens chercher à la porte de mon magasin. Est-ce que déjà vous avez une estimation du nombre de vos adhérents qui sont passés à ce click and collect ?
Alors c'est un comportement d'achat qui se généralise, il faut en être conscient. On a besoin d'accompagner les boutiques indépendantes qui sont peu digitalisées dans ce domaine. Maintenant, soyons conscients que ça représente entre 5 et 10% d'un chiffre d'affaires d'un mois normal. Donc je pense qu'on ne travaille pas pour la crise, on travaille aussi pour l'avenir.
Bien sûr.
C'est vers ça qu'il faut aller aujourd'hui.
Mais vous savez un petit peu la proportion de vos adhérents qui sont passés au click and collect, qui se sont numérisés à l'aune de ces confinements ?
Aujourd'hui, on est à moins d'un tiers des boutiques qui disposent d'une chaîne digitale complète, c'est-à-dire qui disposent d'une informatique de caisse, d'un site internet et qui avaient un click and collect avec un site de e-commerce ou qui ont mis en place, grâce à des solutions proposées par la FNH, en la matière. Voilà. Donc c'est pas énorme, hein. C'est encore, ça reste marginal.
Éric Mertz, le président de la Fédération nationale de l'habillement, qui regroupe donc les indépendants de l'habillement, était notre invité ce soir. On se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.
Europe 1, le 22-22-30.
22h27 sur Europe 1, l'heure habituellement des unes de la presse de demain, mais exceptionnellement ce soir, place au foot et ces deux rencontres que l'on vit en simultané, Monaco-PSG chez les hommes et PSG-Lyon chez les femmes au Parc des Princes où l'on vous retrouve, Julien Froment.
Oui, encore 19 minutes à jouer ici au Parc des Princes, toujours 1-0 pour les Parisiennes face aux Lyonnaises, but signé Marie-Antoinette Katoto à la 11e minute de jeu. Marie-Antoinette Katoto là, qui vient de se faire sécher par la capitaine de l'OL, Wendy Renard, largement en retard. On nous aborde la surface de la réparation. Ça sera une espèce de mini-corner là, pour les joueuses du PSG. Les joueuses d'Olivier Chouafny vraiment, qui réalisent pour le moment une excellente performance, puisqu'au classement, eh bien, pour le moment, le PSG repasserait devant cette équipe de Lyon avec 25 points pour les Parisiennes contre 24 pour les Lyonnaises. Mais pour ça, il va falloir encore tenir un gros quart d'heure. 1-0 donc pour Paris face à Lyon après 72 minutes de jeu.
Merci Julien Froment, en direct du Parc des Princes. Frédéric et Lyon, vous êtes-vous au Stade Louis II où le leader de la Ligue 1, le PSG, vient d'être rejoint au score par l'AS Monaco?
Eh oui Julien, on a l'habitude de dire des fois que tout va très vite en football. Vous savez cette fameuse phrase qu'on sort un petit peu à tort et à travers. Eh bien, on a l'illustration parfaite ce soir au Stade Louis II, puisqu'il y a deux buts partout entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Et pourtant, qui aurait pu croire à un tel scénario? Eh bien, quand on a vu ce qui s'est passé en première période, le Paris Saint-Germain a mené assez rapidement 2-0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, une frappe toute en puissance sous la barre à la 25e minute, puis un pénalty transformé à la 37e suite à une faute sur Rafinha dans la surface de réparation. Et puis le Paris Saint-Germain aurait même pu mener 4-0 puisque les joueurs de Thomas Tuchel avaient marqué deux buts supplémentaires qui ont été refusés à chaque fois pour une position de hors-jeu suite à consultation de l'arbitrage vidéo, des réalisations de Moïse Kean et de Kylian Mbappé. Et puis à la mi-temps, Nico Kovac, le coach monégasque, décide de faire rentrer Caio Henrique et Fabregas. Et puis ça change tout. Paris qui n'arrive plus vraiment à jouer son football, les monégasques qui commencent à y croire, et un doublé donc de Kevin Volland qui vient redonner complètement espoir aux monégasques et relancer cette partie. Un but à la 52e et puis à la 58e en Renard, le deuxième, l'allemand, sur un service de Fabregas qui avait bien trouvé l'espace dans le dos de Levin Kurzawa, qui n'était pas exempt de tout reproche sur le coup. Deux buts partout donc, Julien, il reste encore 20 minutes ici au Stade Louis II.
Merci beaucoup Frédéric Elion, en direct de Monaco pour Europe 1. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous?
J'ai bien, je vous remercie, et vous?
Mais parfaitement, la libre antenne débute donc dès maintenant. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne, c'est ce jusqu'à 1h du matin.
Et je vous attends à 23h dans ce studio pour les prochaines infos.
À tout de suite.